Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Hi, mama,
Les tubes du groupe 2012, la plus grosse compile de l'année. Un maximum de tubes et des inédits de folie sur deux CD et en DVD. Jimmy des Varieux. Paille. Lynn Céline. Céline Rétori. Dorian. Et bien d'autres. Les tubes du Zouk 2012, la compilation 100% locale, déjà dans les bacs.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Messieurs, bienvenue à Popourri Show. 25 ans déjà, Popourri Show en direct de Half House, Université de Toronto. L'ingénieur du son, le DJ Devera, assisté de Morgan au microphone Eric Adair sur www.tut.fm. Aujourd'hui dimanche 13 janvier 2013, émission spéciale Haïti, 3 ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, qui a fait environ 300 000 morts en Haïti. Dans quelle situation se trouve le pays? Où en est le programme de reconstruction de l'île? Et parmi nos invités, Frédéric Apollin, directeur de Agronome et Vétérinaire Sans Frontières, Christophe Warny, universitaire, collaborateur du Monde Diplomatique, auteur de Haïti n'existe pas, 1804-204 aux éditions Autrement, Benjamin Bélagui, chargé de mission du programme Solidarité Internationale et Urgence à la Fondation de France, en charge du suivi du programme, Amélie Baron, notre correspondante, collègue de Radio France Internationale à Port-au-Prince. Et dans la deuxième heure, 3 ans après le séisme qui a ravagé Haïti, RFI donne la parole dans la libre antenne aux auditeurs du monde entier. Que pensent nos auditeurs étrangers et haïtiens de la situation en Haïti? Rendez-vous avec Juan Gomez à Radio France Internationale à Paris. Nous aurons aussi l'occasion d'entreprendre d'entendre des réactions des auditeurs du Canada. André Trouleau à Montréal qui nous attend, qui nous écoute peut-être sur Internet. Bonjour. Fougère Adolphe de la région de Toronto qui sera aussi de nôtre dans la deuxième heure. Haïti Culture, depuis le séisme de 2010, plusieurs artistes haïtiens continuent à sensibiliser le monde à travers leurs œuvres, mais aussi leur art. La chanteuse et conteuse haïtienne Mimi Barthélémy sort un album intitulé « Dis-moi des chansons d'Haïti », 16 chansons qui racontent avec poésie l'histoire d'un pays, un beau livre paru aux éditions Canjil. Reportage Muriel Malouf de RFI Paris en compagnie de Mimi Barthélémy. Et tout au long de l'émission, les buzz compilés, sélectionnés de nos amis radio partenaires au Canada et dans le monde. Et enfin, vers la fin de l'émission, nous accueillerons Christelle de Tinkolibri, nous invitant à son prochain rendez-vous le 25 janvier 2013, Winterlicious Fridays, avec nos amis compères DJ T.H. et DJ Nick, au programme hip-hop, raga, dancehall, soca, bouillon, zouk, compa et j'en passe. Et vous pouvez gagner des billets, vous nous appelez au 86-946-7000 ou encore pot.pourri@sympatico.ca. Si vous souhaitez participer à notre émission en tant que collaborateur ou partenaire, veuillez nous envoyer un courrier immédiatement pot.pourri@sympatico.ca ou sur facebook.com/popourrishow ou twitter@popourrishow en un seul mot pour nous joindre en studio 86-946-7000. Tous les événements communautaires, publics, festifs, culturels sont les bienvenus. Trois ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, dans quelle situation se trouve Haïti? Où en est le programme de reconstruction de l'île? Pensez-vous que le gouvernement canadien doit arrêter l'aide financière à Haïti? Devons-nous exiger la démission du ministre canadien Fantino? Y a-t-il de l'espoir pour Haïti? Est-ce que le président Martelly, président haïtien, est à la hauteur de la tâche? Cette émission est la vôtre et je vous invite cordialement à réagir pour nous contacter pot.pourri@sympatico.ca ou encore Morgane attend votre appel au 86-946-7000. Émission spéciale, hommage aux victimes, survivants. Une présentation de Popourri Show, CUT, 89,5 FM, Toronto.
Je viens, nous tous ces haïtiens liés. Haïti pas de jambes, nous. Nous allons camper, nous allons bailler fort.
Haïti! Haïti!
Au nom de Dieu, le miséricordieux, car la terre est aux dieux par ici, je n'ai Dieu que pour Haïti.
Oh Haïti, qui s'entraîne à payer, même si nous loin souffrance n'a pas tardé. Comment, au milieu de cette désolation, rester attentive à ses regards d'enfant?
Rempile-nous ta vie, Haïti maudit. Haïti, je renais pas le silence.
Les paroles ne valent rien devant ceux présents sur le terrain. Haïti, c'est qui en moi que vous êtes tous à point de voir.
Haïti, tu as tremblé, mais tu as toujours été digne. Entre nous, encore une fois, l'ouverture de sa ligne.
Haïti et son peuple, le compte à rebours a débuté. Tous ensemble, soyons à la hauteur du mot solidarité.
Dieu, quand il fait de mal pour que tu martyrises tes enfants mal aimés, sacrifiés, en colonne, ils chérissaient ton nom, vénéraient tes églises. Ils n'avaient pas grand-chose, à présent ils n'ont rien.
Ans déjà que des enfants, des femmes, des hommes qui ont vu leur terre d'Haïti bouger au point de détruire leurs biens, d'ensevelir leurs proches et de laisser un passif humain évalué à plus de 300 000 victimes. Le peuple semble avoir fait son deuil et disparu. Mais les Haïtiens peinent à trouver des solutions, à construire le présent et à mettre le cap sur l'avenir. Nous avons donc une pensée pour tous ceux et celles qui ont survécu à ce drame et qui vivent un combat acharné. Néanmoins, cette lutte pour la vie nous interpelle, nous oblige et nous contraint à leur venir en aide, de quelle façon. Notre souci premier est de favoriser l'émergence de personnes responsables qui auront la capacité d'entreprendre et de mener des projets dans leur pays avec leurs proches, les autorités. Alors, que le pays commémore le 3e anniversaire du séisme, près de 400 000 sinistrés survivent toujours dans des conditions inhumaines, dans des camps. Selon les observations de notre correspondante sur place, Amélie Baron, elle y voit dans son entourage des petits groupes d'hommes qui débattent sans fin sur les dernières rumeurs de la vie politique nationale, d'autres qui tentent leur chance au jeu de hasard installé à l'ombre des arbres. Le Champ de Mars, la plus grande place d'Haïti, reprend doucement son image d'avant-séisme. L'espace a été occupé dès le soir du 12 janvier 2010 par des familles qui avaient tout perdu dans la catastrophe. Autour des statues des héros de l'indépendance, les abris de fortune ont occupé ce lieu public les mois durant. En janvier dernier, notre ancienne ministre Beverly Oda était venue sur les lieux avec le président Martelly, annonçant le lancement du projet de relogement des sinistrés du Champ de Mars. Pour la ministre canadienne de la coopération de l'époque, l'initiative visait à se focaliser sur le futur des familles haïtiennes et également restaurer ce monument national, place de fierté pour tous les Haïtiens, comme un parc public pour le plaisir de tous. L'opération d'un coût de 20 millions de dollars a accusé de nombreux mois de retard. En visite pour la première fois à Haïti, le nouveau ministre de la coopération internationale, Julian Fantino, a été choqué par les déchets qui jonchent les rues de Port-au-Prince. La République dominicaine voisine est tellement plus propre, avait-il déclaré à des journalistes présents. L'analyse du ministre Fantino est aussi incroyablement simpliste. S'il y avait des solutions faciles pour régler les problèmes d'Haïti, il y a longtemps qu'on les aurait trouvées, dit François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Mais depuis 3 ans, une question revient sans cesse. Où va l'argent? Où va l'argent en Haïti? 2 chercheuses du Centre pour le développement global se sont posées la question. Et leur réponse est catégorique. L'argent contourne le gouvernement et la société haïtienne. Des 9,5 milliards de dollars déboursés par la communauté internationale, seulement 579 millions ont passé par les mains du gouvernement haïtien et à peine 36 millions sont allés aux organisations non gouvernementales haïtiennes. Note Julie Watts, une des chercheuses jointes par le journal La Presse cette semaine. Trois ans après le terrible séisme, plus de 347 000 sinistrés survivent toujours dans les camps de fortune en Haïti. Le relogement est un défi, mais l'urgence est présente, car la majorité des familles est aujourd'hui menacée par les propriétaires des terrains qu'elles occupent. Reportage Amélie Baron à RFI.
Sur ce petit terrain au cœur de la capitale, 300 personnes qui ont tout perdu lors du séisme vivent chaque jour dans la peur. Le propriétaire du terrain qu'ils occupent réclame leur départ. Yveline Clermont est désespérée.
On a toujours subi des menaces, mais la situation est devenue plus dure. Le propriétaire dit qu'il va nous virer les uns après les autres. Il a déjà détruit les toilettes et veut passer un tracteur pour écraser toutes les tentes. On vit dans la peur parce qu'on ne peut pas dormir, on doit surveiller. Je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'ils ont beau nous dire qu'ils vont venir avec un tracteur, je laisse mes affaires ici, car je n'ai nulle part d'autre où les mettre. Je ne sais pas. J'attends que le gouvernement agisse, car on est vraiment menacé.
Ça l'a fait à Bruxelles, parce que nous menacer là, vraiment menacé.
Amélie Gauthier, qui travaille pour Oxfam, témoigne de la complexité du problème.
Près de trois quarts des camps sont sur des terrains privés. Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de solution pour les personnes qui sont sur des terrains privés. Et aussi, d'un autre côté, il y a les propriétaires qui ont aussi une demande légitime de pouvoir savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer leur terrain. Si les propriétaires veulent récupérer leur terrain, il y a tout un processus légal auquel ils peuvent faire appel et le faire avec un juge de paix. Mais malheureusement, c'est des procédures qui sont très longues et coûteuses et beaucoup d'entre eux ont directement pris les choses entre leurs mains.
Dans le coin, les sinistrés sont à bout. Cet homme ne veut pas dire son nom car il ne veut pas perdre son poste de sapeur-pompier, mais il tient à dénoncer les discours creux des autorités.
Les camps improvisés sur les places publiques, pour moi, c'est une façon pour le gouvernement d'être à l'aise quand il y a des internationaux en visite. Par exemple, le Champ de Mars, les étrangers pourront voir qu'un travail a été fait. Mais pourtant, il n'y a rien de fait. Si vous leur demandez un bilan, que vont-ils vous dire? Qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas les chiffres en tête. Tout ça car ils n'ont pas de bilan sérieux. Quand ils donnent de l'aide internationale, ils doivent venir la contrôler, car la confiance a disparu. Les Haïtiens ne se font plus confiance.
Ces sinistrés ont aujourd'hui l'impression de ne plus être citoyens à part entière. Pour la quatrième fois en deux mois, des individus ont tenté, en pleine nuit, de mettre le feu à leur abri de fortune. À chaque fois, la police refuse de se déplacer en leur disant qu'elle ne peut rien faire. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Trois ans après, où est Haïti? 86, toute la diversité du monde. Des artistes se mobilisent pour Haïti. Ils chantent en espagnol. Somos el mundo por Haïti.
Tenemos que entender.
Trois ans après, qu'en est-il de la situation en Haïti? Trois ans de cela, nous étions aux côtés de nos amis haïtiens. Ici même, à cette antenne. Débat, émission spéciale, sensibilisation. Ils étaient nombreux à passer à cette antenne. Mais trois ans après, en produisant cette émission, on sent le pessimisme des Haïtiens de la région de Toronto, de Montréal, partout au Canada, même en France. Pour beaucoup, le gouvernement du Canada a manqué à son engagement. L'immigration au Canada est pointée du doigt. Les observations simplistes du ministre Fantino ne plaisent pas à la majorité d'Haïtiens. Mais que pouvons-nous faire? Quel impact, quelle influence pouvons-nous avoir sur la reconstruction d'Haïti? Pensez-vous que le gouvernement canadien doit arrêter l'aide financière à Haïti? Devons-nous exiger la démission du ministre Fantino? Y a-t-il de l'espoir pour Haïti? Est-ce que le président Martelly est à la hauteur de la tâche? Cette émission est la vôtre. Nous attendons vos réactions. 416-948-7000, émission spéciale hommage aux survivants du séisme tremblement de terre, janvier 2010, Haïti, trois ans après. Haïti, trois ans après, aujourd'hui je vis comme un animal, nous dit une haïtienne. Que reste-t-il des rêves de construction d'Haïti, trois ans après le tremblement de terre qui a ravagé ce pays, parmi les plus pauvres du monde? Près de 400 000 personnes sont à toujours dans l'insalubrité des camps, de tentes, des bidonvilles sont repartis à l'assaut des collines. Une épidémie de choléra s'est durablement installée. 80% de la population vit toujours sous le seuil de la pauvreté. Dans un instant, nous faisons le point avec un Haïtien qui vit à Montréal, qui a eu le courage de repartir visiter son pays après 47 ans d'absence. Oui, il faut le faire. Et aujourd'hui, il vit entre l'amertume et l'espoir. On a besoin que la diaspora de se mobiliser et de s'unir. Nous avons un pouvoir. Oui, nous avons un pouvoir. Dans un instant, notre invité en direct à Montréal. Cela nous fait plaisir, madame, monsieur, d'accueillir monsieur France-André Trouillot, qui est en direct avec nous à Montréal, d'origine haïtienne, et vous vivez à Montréal depuis plus de 47 ans, c'est ça?
Oui.
Bonjour, et bienvenue à notre émission spéciale.
Bonjour, auditrice, auditeur, je suis très heureux de faire partie de votre émission, émission par laquelle, d'ailleurs, mon père et moi, nous avions participé il y a quelques années, deux ans de ça, je pense, dans le cadre, justement, de Trouillot, et qu'on parlait d'un peuple patriote dans la musique haïtienne. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, malheureusement, dans un contexte un peu douloureux encore, qui est la commémoration de trois ans de souffrance et puis d'espoir, en fait, pour Haïti.
Quand vous êtes arrivé en Haïti après 47 ans d'absence, comment avez-vous vu ce pays au mois d'octobre dernier?
Je dois vous avouer que depuis quelques années, naturellement, je reste en contact, ne serait-ce que virtuellement, avec la réalité de notre pays, à travers, naturellement, les échanges Facebook, puis les différentes vidéos qu'on peut retrouver sur Internet qui nous parlent, en fait, de cette réalité haïtienne. Donc, je suis arrivé en Haïti dans le contexte d'une conférence qui se faisait sur la santé, qui s'appelait Haïti Santé 2012, qui est organisé par le GRAN, qui est un groupe de professionnels haïtiens qui ont développé un très beau programme de reconstruction pour le pays. Alors, il y avait une première conférence qui était sur l'éducation, et la deuxième qui était sur la santé. Et en tant que membre fondateur du comité des usagers du système de santé ici au Québec, on m'avait demandé d'apporter une proposition citoyenne qui pourrait être au fait dans le contexte de la santé en Haïti, pour avoir des comités d'usagers. Donc c'est un comité qui défendrait naturellement le droit des usagers de, dans le système de santé. Il est certain que cette une proposition qui a beaucoup de chemin à faire, Haïti a besoin d'établir un système de droit clairement établi pour la population générale et encore plus important dans la santé. Malgré que je dois vous avouer que ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a déjà des lignes de droit, des lois qui sont déjà établies en Haïti pour déjà dans le système.
Mais on, alors, me, dit que, côté, on me dit que beaucoup d'observateurs, et y compris hier, il y avait quelqu'un qui était à Radio-Canada et RDI qui disait que oui, la force policière, par exemple, il y a un peu plus d'ordre, si vous voulez, c'est plus organisé. Mais quand on passe au niveau du juge, à ce niveau-là, ce stade-là, c'est assez bancal. Il n'y a pas assez de décisions prises à ce niveau-là. Qu'avez-vous à dire de cela?
Oui, et c'est là que j'allais venir encore un peu, justement. C'est que arrivé en Haïti, naturellement, les premiers jours, c'était à l'hôtel Caribé qui, naturellement, ne parle pas de, d'Haïti. On aurait pu se penser à n'importe quelle ville nord-américaine. C'est un hôtel extrêmement magnifique. On ne parle pas de ce qu'on voit d'Haïti. Par contre, ce que j'ai découvert et ce que j'ai ressenti lors des échanges avec différents membres du ministère de la Santé, entre autres, c'est ce, cette situation de capacité, si je peux dire, à établir des règles claires qui sont respectées. C'est cette capacité à gérer des situations de qui connaît qui et qui est mis à certaines positions qui ne sont pas forcément qualifiées, etc. Donc, rétablir un système qui parle d'intégrité et de
transparence,
de compétences, etc. Et c'est extrêmement lourd pour les personnes qui sont présentement en place et qui viennent des fois bon, dans un cadre particulier, c'est un médecin haïtien qui a travaillé longtemps aux États-Unis, à qui on a confié une mission d'engager, de recruter et de mettre en place des gens qualifiés pour des programmes au niveau de la santé, et qui se retrouve avec un groupe de gens qui ont été placés dans le temps par des références.
Voilà.
Et qui n'ont pas forcément les moyens.
On n'est pas ici, on ne va pas faire uniquement, et tout de suite, je dirais, le procès de ces gens-là, ou encore des ONG, parce qu'on voit qu'il y a des voix qui s'élèvent, qui disent qu'il y a beaucoup de ONG qui sont installées en Haïti, mais qui vivent comme des touristes. Alors, ça c'est pour une autre émission, parce que nous allons en parler tout au long de l'année, c'est notre mandat, c'est notre mission. Mais d'abord, nous voulons, et vous voulez, et comme tous ceux qui sont autour de moi, mobiliser la diaspora haïtienne ou les amis d'Haïti. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur Franck-André Trouillot? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bon, alors, rapidement, je pense que pour le bénéfice de ce qu'on peut faire, il faut parler de ce que j'ai observé, mes constatations. Et c'est important de le faire. Je dois vous avouer, avoir quitté Montréal au mois d'octobre pour la conférence, j'ai été beaucoup plus sceptique que je suis revenu. Je suis revenu très optimiste, avec beaucoup d'espoir pour ce pays. Et bien, je dois vous expliquer les observations et c'est moins positif que positif, mais aussi de belles choses qui se font. Donc, arriver en Haïti, c'est évident que Port-au-Prince reflète ce qu'on voit qui est justement cette désolation. On voit les maisons encore écoulées, on voit beaucoup de saletés, etc. Mais par contre, Haïti n'est pas Port-au-Prince. Et donc, le premier temps, on a passé à Port-au-Prince. J'ai vu ce que je vois généralement et ce qu'on nous présente. Maintenant, je sors de Port-au-Prince, on a été dans les provinces, il y a une extrême beauté de ce pays, et beaucoup de gens qui essaient de prendre certaines initiatives, entre autres en agroécologie, entre autres en des systèmes de greffe de différents produits qui seraient rapidement positifs, entre autres dans la région de Caprouille, de Jacmel, de Valout. Donc, j'ai rencontré une jeune fille d'origine québécoise qui est née ici au Québec, dont le père est haïtien. Elle a obtenu en 2010, après le tremblement de terre, et elle a adopté Haïti naturellement. C'était sa première année en Haïti, et depuis, elle vit en Haïti. Et cette jeune fille, Marita, a des programmes avec des gens sur le terrain, des paysans, sont extraordinaires. Entre autres, la production de charbon qui vient de résidus de noix de coco et puis de de produits végétaux, et ce sont des plaquettes de charbon, de cocoyer, etc., qui sont moins polluants et qui empêcheraient, par exemple, le déboisement du pays. Et c'est des projets comme ça que j'ai vu. J'ai vu des productions de cassave, entre autres, à Toulouse, où ces gens-là, des paysans, ont construit une cassaverie. Et par contre, ils ont besoin d'aide financière, ils n'arrivent pas à produire, donc la cassaverie ne fonctionne pas depuis à peu près un an. Alors que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place si la communauté ou bien la mairie de cette région-là pourrait les aider.
Nous avons une minute, oui, allez-y.
Oui, alors je pense qu'il y a présentement beaucoup de besoins, et il y a beaucoup d'initiatives qui ont besoin d'être encadrées, et malheureusement ce n'est pas des choses qui sont données. Alors, je suis venu avec la possibilité de dire que nous de la diaspora devons finalement nous unir et nous mobiliser parce que nous avons un pouvoir d'influence. On nous a donné un ministère des invités vivants à l'étranger et ce ministère-là doit pouvoir nous écouter et pouvoir, nous, dans la diaspora extérieure qui avons les moyens, arriver avec des projets pour Haïti parce qu'il y a les gens sont prêts en Haïti. Et on parle de relever en Haïti, comme j'ai dit hier à la maison d'Haïti, les Haïtiens n'ont jamais arrêté de se tenir debout. Ils se sont relevés immédiatement après le crise. C'est que les systèmes, les ONG, les programmes que nous avons pour aider ce pays à se rebâtir ou à se refonder ne répondent pas aux besoins de ces gens-là. Ne répondent pas aux besoins. Effectivement, oui, on parle d'un système de tourisme qui est donné aux gens qui vont aux ONG, puis je ne veux pas en parler. Mais nous avons un pouvoir à l'extérieur et c'est là que nous devons nous mobiliser. Nous avons un groupe justement avec Marita et Madame Jenny Lorsidi qui nous travaillons présentement sur un projet pour 78 jeunes agroécologistes qui ont été envoyés au Brésil et qui sont revenus avec une expertise en agroécologie et personne ne les a encadrés. Ils ont créé une fondation, un regroupement dans les provinces. Ils sont prêts à mettre des projets en place, hein, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'être côtoyés. Alors nous, de la diaspora, nous essayons de trouver des moyens, soit financiers ou d'expertise, pour les aider à démarrer ces projets qui vont permettre au pays, à un certain moment, qu'on les faire atteindre cette autosuffisance agricole. Alors ça, c'est un des projets auxquels nous sommes venus. Alors... Donc, sur cette vie du jeune-là, nous espérons pouvoir créer avec, par exemple, le regroupement des agriculteurs du Québec, un programme ou de parrainage où ils vont pouvoir finalement mettre en place l'expertise qu'ils ont été chercher au Brésil, qu'ils maîtrisent clairement parce que nous avons vu ce qu'ils sont capables de faire, mais ils n'arrivent pas à le mettre par manque de moyens.
Alors, c'est l'espoir. Je vois qu'il y a l'espoir. Nous avons un peu
d'espoir.
Écoutez, restez des nôtres hein, tout au long de l'émission. Si on a le temps, on essaiera de faire un petit détour à Montréal. Sinon, la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, tenez-nous au courant de ce qui se passe. On vous donne l'antenne quand vous avez besoin. Et peut-être on peut vous donner votre numéro de téléphone pour les gens qui veulent entrer en contact directement avec vous.
Oui, bien sûr.
Alors, Franck-André Trouillot, qui est à Montréal, et le numéro de téléphone, madame, monsieur, vous pouvez le joindre directement. C'est le 514, comme indicatif régional, Montréal, 660-5965. Je répète, 514-660-5965. Franck-André Trouillot, qui est d'ailleurs très, très engagé dans la culture à Montréal, et vous faites quand même une très belle œuvre, je trouve, et on en a besoin de parler régulièrement. Parler du positif, mais aussi parler de ce pouvoir, de la force de s'unir, n'est-ce pas?
Oui, je crois que nous avons 2013 devrait être l'année charnière pour nous de la communauté, de la diaspora. Je ne veux plus parler d'être un membre de la diaspora, je veux parler d'être haïtien. Le retour à Haïti a ramené l'Haïti en moi plus que jamais auparavant. Et c'est cette énergie que j'essaie de communiquer à tous mes confrères, compatriotes que je rencontre, c'est de pouvoir se regarder dans les yeux, se toucher mutuellement, physiquement, et se dire, je suis fier d'être haïtien. Parce que nous avons tout pour être fier de ce pays.
Franck-André Trouillot, merci infiniment, et bon courage.
Merci.
Au revoir.
Alors, merci à tous.
Come on, wake up. CIUC 89.5 FM. Toronto.
Vous l'attendiez tous. L'année du groupe 2012 est enfin disponible. Les meilleurs titres d'eau, les meilleurs artistes d'eau. Kennedy, Milka, Serge Lama, Lorenz, Patrick Tulman, Lincha et plein d'autres s'en foutent dans l'année du coup 2012. À vous procurer sans tarder.
Trois ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, dans quelle situation se trouve le pays? Où en est le programme de reconstruction de l'île? Le 12 janvier 2010, Haïti, secoué par le violent séisme, un tremblement de terre. Et aujourd'hui, nous allons, peut-être si on a le temps, de passer au complet ce magazine de Radio France Internationale. Il y a des invités qui nous attendent. C'était enregistré hier à Paris, dans le bureau des studios de RFI. Parmi les invités, Frédéric Apollin, directeur de Agronome et Vétérinaire Sans Frontières, Christophe Wagny, universitaire, collaborateur du Monde Diplomatique, auteur de Haïti n'existe pas, aux éditions Autrement, Benjamin Bellaghi, chargé de mission du programme Solidarité Internationale et Urgence à la Fondation de France, en charge du suivi du programme. Un extrait. Et pour nous rejoindre, madame, monsieur, tout au long de cette émission spéciale Haïti, trois ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 qui a fait environ 300 000 morts, dans quelle situation se trouve le pays? Où en est le programme de reconstruction de l'île? Le numéro composé, c'est le 416-946-7000.
Vous avez compris, mais en ces buildings, à chaque fois, tout ce que la résistance n'est pas effondré, c'est qu'il est à soi, par la résistance. Il y a un miracle.
Il y a un taxé où il y a augmenté, sans que ça y a un point à 7 millions. Mais ça se fait. Là, il faut y aller à la
résistance, même ça. Bonjour, le 12 janvier 2010, Haïti a été secoué par le plus violent séisme que le pays ait connu en deux siècles. L'essentiel des infrastructures, routes, écoles, hôpitaux ont été détruites. Plus de 220 000 personnes sont mortes, 300 000 ont été blessées et plus d'un million et demi se sont retrouvés sans abri. Trois ans plus tard, la situation est toujours critique malgré l'afflux de l'aide internationale. Nous allons voir avec nos invités comment vivent les Haïtiens aujourd'hui.
Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Avec moi pour en parler trois invités, Benjamin Bellaghi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission du programme Solidarité Internationale et Urgence à la Fondation de France. Vous êtes en charge du suivi des programmes Haïti puisque vous avez coordonné une partie des dons qui ont afflué juste après la catastrophe, des dons qui ont été, on peut le dire, massifs.
Oui, effectivement, la Fondation de France, grâce à un partenariat avec les médias français, a pu récolter une part importante des dons des Français, c'est-à-dire 34 millions d'euros. Nous avons redistribué une grande variété de projets sur le terrain dans diverses thématiques d'intervention.
Alors à vos côtés, Frédéric Apollin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Agronome et Vétérinaire Sans Frontières. Vous intervenez en Haïti depuis 1991, mais j'imagine que le séisme de 2010 a accru les besoins.
Ah oui, tout à fait. Notre activité a triplé pratiquement depuis le séisme et ce n'était pas que nous souhaitions l'augmenter, mais les besoins étaient là et les demandes notamment de nos partenaires de la société civile dans l'agriculture, dans le monde rural, ont été de plus en plus fortes.
Et avec moi aussi Christophe Varnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, vous collaborez régulièrement avec le monde diplomatique sur Haïti. C'est un pays que vous connaissez bien puisque vous y avez vécu. Vous avez travaillé notamment comme conseiller en communication auprès du président Aristide avant de démissionner, on peut dire ça comme ça, à la fin des années 90.
Oui, absolument. C'est vrai que mon premier séjour en Haïti remonte à 22 ans et donc ma vision a tendance à ne pas être une vision uniquement post-séisme, mais qui sont remontés un petit peu plus loin dans l'histoire haïtienne.
Voilà, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Haïti n'existe pas, 1804-2004 », dont vous avez aussi le rôle d'historien dans cette émission.
Oui, si on veut, c'est à la fois, disons, politologue et historien, et c'est vrai que j'ai fini par me demander, après un long séjour en Haïti, si ce pays existait, et ou s'il existerait, tout en souhaitant très fort qu'il puisse exister un jour.
Et bien, écoutez, pour l'instant, il existe, et d'ailleurs, je vous propose d'écouter tout de suite, les Haïtiens, Amélie Baron, la correspondante de RFI à Port-au-Prince, leur a demandé quel était leur ressenti 3 ans après le séisme. Dans les conversations, les Haïtiens n'utilisent pas souvent le mot séisme. L'expression 12 janvier est ancrée dans les esprits. Nul besoin de préciser l'année. Pour tous, il y a un avant et un après la catastrophe. Sur les bords de la place Saint-Pierre à Pétionville, Anténor note les quelques changements qu'il observait depuis 3 ans.
Sur la question des décombres, ça a changé. Parce que les rues ont été déblayées. Et il y a eu du bon travail dans quelques zones. Par exemple, la place ici était occupée par des tentes. Ça a été nettoyé, ça a changé.
Mais à part le déblaiement des ruines, Anténor est très déçu.
La situation est devenue plus grave de jour en jour, après le séisme. Le chômage a augmenté, l'insécurité a augmenté. Vous voyez, dans certains endroits, il y a toujours des gens sous des tentes qui vivent dans des conditions difficiles. On dit toujours, après la souffrance, c'est la délivrance. Après le séisme, ça aurait dû changer. On espérait tous un changement, mais on l'attend encore. Je ne sais pas s'il est en route, ce changement, mais pour le moment, on ne voit rien. Mais depuis l'heure où vous êtes vivant, vous espérez un changement.
À 53 ans, Philotte survit au jour le jour en vendant des fruits au bord de la route. Le 12 janvier 2010 restera pour elle un jour tragique.
J'ai perdu 2 personnes de ma famille. Ils regardaient la télévision et la maison leur est tombée dessus. Ils sont morts. Je suis résignée. 2 de mes enfants sont morts. Avant le 12 janvier, la vie était meilleure, mais ça n'est plus comme ça. La nourriture était moins chère. Maintenant, c'est plus cher. Maintenant, on doit se battre pour vivre. On a toujours de l'eau pour se rendre beau, mais on n'a plus la vie d'avant. Je pensais que le pays s'unirait pour changer tout ça, mais je ne vois rien du tout. Au lieu de ça, c'est de plus en plus dur. On ne sait pas si ça va changer pour nous, mais pour le moment, ça n'est pas encore bon.
Pas beaucoup de progrès en 3 ans et même une vie plus dure pour la majorité pauvre. Pierre Denis partage ce sentiment et pour lui, les responsables sont à chaque fois du côté de la bourgeoisie haïtienne.
Pour moi, mais moi, reconstruction Haïti. Pour moi, la reconstruction d'Haïti, c'est les hôtels, les supermarchés et les restaurants. À part ça, il n'y a rien. Nulle part vous verrez quelqu'un qui aide un autre à reconstruire son logement, qui dira « Trouvons l'argent et travaillons ensemble, reconstruisons votre maison ». S'il voulait aider le peuple, il chercherait un terrain ou construire 3 ou 4 maisons. Il trouverait les pauvres pour y habiter, les retirer de la rue, les retirer des tentes où ils vivent depuis tout ce temps. Mais c'est des gens qui ont de l'argent. Ils construisent juste des supermarchés, des hôtels. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il n'y a pas de reconstruction à Haïti.
Fatigué par les discours prometteurs des autorités et déçu que les millions apportés par la communauté internationale n'aient pas changé leur quotidien, la plupart des Haïtiens ont repris leurs habitudes de débrouille. La mentalité est restée la même, vivre sans trop espérer de l'État et prier Dieu pour que leur situation s'améliore. Bonjour Amélie Baron.
Bonjour.
On entend dans votre reportage qu'à part le déblaiement des ruines, les Haïtiens n'ont pas du tout l'impression que leur quotidien s'est amélioré depuis 3 ans.
Non, effectivement, ils se disent que l'État, qui n'avait pas encore fait grand-chose pour la majorité pauvre, n'a encore rien fait pour eux. C'est un État faible qui n'est pas nouveau, c'est le classement de l'habitation des Haïtiens. Mais vraiment, le cynisme a mis encore l'État devant de grandes difficultés. Donc les Haïtiens sont un peu désabusés et ils font encore au quotidien comme ils faisaient avant, c'est-à-dire ils se débrouillent par eux-mêmes.
Christophe Varny, le 12 janvier, c'est vrai, avait suscité malgré tout un espoir, hein, qui était celui de la reconstruction et de la refondation politique du pays. Cet espoir ne semble pas tellement aboutir aujourd'hui.
Non, on a vu jaillir le mot refondation très vite après le mot reconstruction. C'est effectivement un concept particulièrement intéressant, dans la mesure où ce pays n'a peut-être jamais été fondé, il n'a sans doute pas été au moment de l'indépendance, compte tenu des extrêmes difficultés avec son ancienne métropole. Et c'est vrai qu'on a pu croire, ou quelques-uns ont pu croire, que la refondation allait se faire, mais quand on a vu les hommes politiques haïtiens reprendre eux-mêmes le mot refondation, compte tenu de la médiocre qualité qui les caractérise, on s'est dit que la refondation serait surtout le moyen d'attirer des crédits et de profiter de l'évaporation d'une partie de ces crédits, puisque c'est ce qui caractérise la classe politique haïtienne, c'est une espèce de vol permanent.
Benjamin Bélanger, comment est-ce que vous réagissez à ce sentiment d'inaction de la part des Haïtiens, alors que l'aide internationale, hein, vous le disiez, s'est beaucoup mobilisée?
Alors, sur cette question, je pense que beaucoup d'Haïtiens ont quand même bénéficié très largement de l'aide qui a été apportée. Mais il y a deux choses différentes. D'une part, analyser la situation globale d'un pays, son niveau de développement, le niveau de structuration de son économie, etc. Et puis, regarder à l'échelle des vies de certaines personnes, ce qui se passe. Et je pense que là, on n'a pas forcément la même vision des choses.
On prend un peu de hauteur.
Alors, quand on regarde justement à une échelle très globale, on est assez déçu, parce qu'effectivement, il y avait des attentes extrêmement fortes sur la reconstruction du pays, la refondation. Et on peut être déçu, les Haïtiens le font, je pense, à juste titre. En revanche, nous, ce qu'on constate avec toutes les missions qu'on fait, c'est qu'il y a quand même des changements vraiment importants qui se sont faits dans la vie quotidienne des gens de manière très concrète. Il y a des destins quand même qui ont bénéficié, je dirais, très concrètement de cette aide-là. Mais il est vrai que, ni bout à bout, ils ne font pas le développement du pays comme on pourrait l'espérer.
Dans le cadre de Haïti, 3 ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 qui a fait environ 300 000 morts, dans quelle situation se trouve le pays aujourd'hui? Où en est le programme de reconstruction de l'île? Pour participer à notre émission, 86-946-7000 ou pot.coria@sympatico.ca. Et à ne pas rater, dans la deuxième heure, nous allons accueillir la présidente, la fondatrice, la gérante de Ticolibri, ah oui, saveur des tropiques à Toronto, qui nous présente Winterlicious Fridays avec DJ T-Ace et DJ Nick Desbillés vous attendent à ne pas rater dans la deuxième heure. Rapidement, ce qui fait le buzz en ce moment sur la toile du journal Express de Toronto. Les consultations de la ville de Toronto autour du projet d'un nouveau casino se précisent ici et maintenant et se dirigent vers le public jusqu'au 29 janvier. Donc si vous voulez avoir des casinos à Toronto, allez-y. Vous pouvez participer, télécharger le matériel explicatif
sur le site www.toronto.ca. La Fondation Hélène Tremblay-Lavoie, qui œuvre pour que les personnes âgées francophones aient accès à des services spécialisés de soins de longue durée en français dans le Grand Toronto, vient de décrocher une alliée de taille, la chanteuse-comédienne Louise Fitre. Bravo! Au Canada, la chef crie Teresa Spence est en sa 30e journée de grève de la faim, symbole du mouvement de contestation Idle No More, dont l'ampleur rappelle à certains autochtones la crise d'Oka. Cette fois-ci, par contre, pas question de laisser la crise s'enfoncer dans la violence, assurent les acteurs du mouvement. Le premier ministre canadien, M. Harper, a fait quelques honorables arabesques pour accommoder les chefs des Premières Nations vendredi. Mais la division chez les chefs de file autochtone persiste et le mouvement, je vous rappelle, prend de l'ampleur, une ampleur internationale. En Égypte, nous apprenons que la baisse des revenus des hausses de prix rend la vie des Égyptiens de plus en plus difficile. Ainsi, du gaz au poulet, même les pâtes, les prix ont connu une culbute. Et la seule bonne nouvelle concerne les hommes, les cardiologues. Tenez-vous bien, le prix du Viagra a baissé de 70% en Égypte, tandis que les succédanés aux origines douteuses se vendent à moins d'un euro. À la une de la presse française, l'opération Serval au Mali, tournée au vinaigre au cauchemar avec des victimes du côté des Français. Ce Serval est un petit félin du désert, c'est bien sûr le sujet majeur de la presse dominicale en France, qui est venu bousculer les sommaires en ce jour de méga manifestation des opposants au mariage gay en France, et surtout à Paris. Et que va-t-il se passer à présent? Plusieurs sites internet de journaux français rapportent ce matin que des militaires français sont arrivés hier à Bamako au Mali en provenance de Côte d'Ivoire et du Tchad. Toujours en France, contre le mariage pour tous, la manifestation pour tous descend dans les rues de Paris aujourd'hui au moment où je vous parle. Tous les slogans ont été vus et homologués, non agressifs. Par exemple, « Papa, maman, il n'y a pas mieux pour un enfant ». Le débat sur le projet de loi du mariage pour tous agite depuis plusieurs mois l'ensemble de la blogosphère. Publication d'articles, d'argumentaires, de pétitions, les pour, les contre s'affrontent à coups de tweets sur la toile. Le groupe socialiste a riposté en publiant sur son blog une vidéo dénonçant les arguments des anti-mariage pour tous qu'il juge caricaturaux. Et selon un sondage dans le journal France Anti-Martinique ce matin, la majorité des Martiniquais sont contre, à part quelques rares Martiniquais qui osent apporter leur appui au mariage pour tous dans un pays catholique. Les Martiniquais homophobes se cachent derrière la religion, écrit une auditrice à peau pourrie. Le projet de loi sur le mariage homosexuel donc divise les Réunionnais dans l'océan Indien. Il y a quelques manifestations qui se déroulent aujourd'hui partout à Saint-Denis, capitale de la Réunion. Journaliste en danger, après plus de 13 mois de détention, le correspondant de Radio France Internationale au Burundi, Hassan Rouvakouvi, est condamné à 3 ans de prison malgré la requalification de sa peine. Le groupe audiovisuel extérieur de la France remercie la communauté internationale, les organisations professionnelles de journalistes et les associations de défense de la liberté et de la presse pour leur soutien sans relâche à Hassan Rouvakouvi. Et depuis le début d'ailleurs de sa détention, ces gens sont restés mobilisés pour sa libération. De son côté, l'association Reporters sans frontières, qui se déclare dans un communiqué profondément déçu par le verdict prononcé, lance une pétition réclamant la libération immédiate de Hassan Rouvakouvi. Allez Maurice, vie privée, vie publique, l'affaire Nandani Sournak, la femme d'affaires et activiste du Parti travailliste, et le gagging order émis par le juge de la Cour suprême samedi dernier, reste toujours d'actualité. Jeudi dernier, à quelques heures de son départ à l'étranger, le juge a prononcé cette injonction intérimaire contre les publications du groupe Le Mauricien et la Sentinelle jusqu'au 18 janvier. Les Mauriciens du monde entier suivent avec beaucoup d'intérêt le dénouement de cette affaire. Tiken Dia Fakoli, un single pour le Mali. On en parle dans la deuxième heure.
Richie. Papa ici, true love, même après la mort. Mon grandi n'a rien vu, doucement comme un gosier, c'est papa ici, chercher ton œil. Je connais son amour, chacun a des connus, de la brunière, tant de chéris, des pays, moi et moi,
Spéciale sur CIT 89.5 FM, Haïti, 3 ans après. Vidéo choc qui fait le buzz sur le web. C'est un reportage chez Gros Mama à Port-au-Prince. La prostitution macabre des femmes haïtiennes pour survivre. Suite au séisme de 2010, une augmentation des prostituées se manifeste sur l'île. Les femmes sont contraintes à cette activité pour pouvoir nourrir leurs enfants et leurs familles. Il convient aussi de pointer du doigt l'extrême centralisme de l'État haïtien, attirant une population toujours plus nombreuse à Port-au-Prince. Le drame de ce centralisme, c'est l'illettrisme de cette immigration intérieure qui converge vers le seul point, la capitale haïtienne. Population essentiellement rurale, très éloignée du rapport à la ville, elle est très éloignée aussi des aspects sanitaires, de salubrité qui est due à une non-éducation. La situation d'aujourd'hui ne diffère pas de l'avancéisme. Le processus menant à une prostitution de la gent féminine, cette vidéo choc montre une prostitution dégradante et indigne. Alors, haïtiens, haïtiennes, que pouvons-nous faire? J'étais vraiment dégoûté par le traitement des femmes, des jeunes filles dans cette vidéo qui est sur la toile. Il faut agir.
General Store. We are a convenience store. We're open 10 to 10 daily.
The store is on Queen Street 20.
In the heart of Parkdale, we're a true Parkdale gem. We're a true social enterprise. Many people come into our place and say, what is this place? I love it. What do you kids like about the Duquesne General Store?
And I think.
And what do the big kids like about the Duquesne?
They like the food. Organic, perfect, groceries, and so much more.
That's very good, son.
That's very good, son.
From the roof up, CIUC at 945 FM.
Sérafie, la radio mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est un groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit-parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Émission spéciale, hommage aux victimes et survivants. Haïti, 3 ans après. Une présentation de Popourri Show, CUT 89,5 FM, Toronto. Le président haïtien Michel Martelly a assisté avec l'ex-président Bill Clinton en sa qualité d'émissaire des Nations Unies en Haïti à une cérémonie samedi, hier, le 12 janvier, en l'honneur des victimes du tremblement de terre de 2010. Devant les journalistes étrangers, Michel Martelly, président haïtien, a clairement fait part de son rejet du système actuel de l'aide humanitaire. Je cite, « Nous devons admettre que ce système est dépassé. Nous avons échoué, échoué et échoué. Néanmoins, je voudrais demander au monde de donner du crédit à notre leadership. Nous sommes ici depuis un an et demi et nous sommes ceux qui parlent de l'inefficacité de l'aide et de la coopération. Nous sommes ceux qui demandent des résultats. Nous sommes ceux qui reconnaissent qu'il n'y a aucun résultat. Nous ne sommes pas aveugles. Nous ne voulons pas simplement que l'argent vienne en Haïti. Arrêtez d'envoyer de l'argent. Changeons le système. Et la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a dressé un bilan positif de l'action de l'Union européenne en Haïti depuis le violent séisme du 12 janvier 2010. La commissaire européenne à la coopération internationale de l'aide humanitaire, en visite officielle à Port-au-Prince, a appelé les bailleurs à poursuivre leur soutien pour la reconstruction d'Haïti et promis une aide de 30,5 millions d'euros. Eh oui. Le Premier ministre haïtien, Laurent Salvador Lamotte, s'est entretenu lundi dernier à la primature, plutôt, avec l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, M. Henri-Paul Normandin, dis-je. Aujourd'hui, de la décision donc du gouvernement canadien de geler les fonds alloués à Haïti dans le cadre de l'aide internationale au développement dans ce pays. Au cours de cette réunion, M. Normandin a précisé que ce gel de fonds annoncé ne concerne que le prochain cycle de programmation de l'aide canadienne. Ainsi, les projets en cours qui reçoivent des fonds canadiens, à travers notamment les ONG canadiennes, ne seront pas affectés. Haïti, 3 ans après. RFI donne la parole dans la libre antenne aux éditeurs du monde entier. Cela s'est déroulé vendredi. Que pensent les auditeurs étrangers et haïtiens de la situation en Haïti? Rendez-vous en direct avec Jean-Rohan Gomez, plutôt, à RFI Paris.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
bienvenue si vous nous rejoignez. Émission aujourd'hui en grande partie consacrée à Haïti, 3 ans après ce séisme qui a dévasté le pays, séisme qui a fait, je vous le rappelle, 200 000 morts, 1 million de sans-abri. Nous dressons aujourd'hui un bilan de la situation 3 ans après, un état des lieux, de la reconstruction, du relogement des sinistrés, de l'aide alimentaire. Vous nous posez vos questions, toutes vos questions pour mieux comprendre la situation en Haïti, vos réactions évidemment. Nous allons dans un instant vous donner la parole. Vous êtes quelques-uns à nous appeler d'Haïti, donc priorité évidemment à ceux qui sont sur le terrain et qui peuvent témoigner des progrès ou non réalisés ces 3 dernières années. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous êtes en France, la page évidemment Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité et notre adresse électronique appel@actu.rfi.fr. Ridley, vous êtes à Port-au-Prince en Haïti.
Oui.
Et vous aviez donc une question sur la reconstruction de votre pays. Vous ne la constatez pas, hein, cette reconstruction au quotidien?
Non, absolument. Le processus est vraiment, vraiment lent, parce qu'il n'y a pas de bâtiments qui ont été reconstruits, pas même le palais national, le palais ministériel, les écoles qui ont été détruites, les hôpitaux. Il y a eu des promesses et des milliards de dollars qui ont été débloqués, mais concrètement, rien n'est fait, à part le marché public qui a été offert par Digicel, une compagnie de téléphonie, et le campus universitaire qui a été offert dans le département du Nord par la République dominicaine. Il n'y a rien.
Rien eu. Donc comment se fait-il que 3 ans après le séisme, la reconstruction du pays soit aussi lente? Patrick Colombel, cofondateur des Architectes de l'Urgence, est avec nous au téléphone. Patrick Colombel, Architectes de l'Urgence, c'est une fondation qui intervient dans les pays qui sont frappés par des catastrophes naturelles comme des cyclones et des séismes. Vous êtes présent depuis 3 ans en Haïti. Comment expliquer, Patrick Colombel, cette lenteur?
Oh, moi je vais l'expliquer assez simplement, mais peut-être un peu brutal. Je pense que l'erreur, il y a une erreur de stratégie au départ, qui était impulsée notamment par les bailleurs internationaux, quels qu'ils soient, dont la communauté européenne, hein, qui n'est pas exempte de ça, qui est celle de dire, on va traiter, parce que c'est ce qui s'est passé, on va traiter Haïti et le problème du séisme comme si on avait affaire à un grand camp de réfugiés. Et je crois que l'erreur, elle est venue de là, c'est-à-dire qu'on est parti sur des solutions qui sont des solutions transitoires pour tout ce qui est reconstruction, au lieu de partir sur du permanent tout de suite. On pourrait très bien imaginer de laisser, déjà sur la problématique qui est du logement, de laisser les gens sous des abris qui soient très précaires pendant une période relativement longue, qui pouvait durer 2 ans à la limite, et que parallèlement à ça, on démarre sur notre construction pérenne tout de suite. Or, la stratégie, ça n'a pas été du tout celle-là, c'était de dire, on va faire de l'habitat provisoire. Donc c'est ça qui a eu une profusion de shelters partout, qui n'apportent pas franchement grand-chose à Haïti, pour une raison toute simple, c'est que généralement, ce sont des choses qui sont importées, fabriquées à l'étranger, posées sur place, et c'est tout. Avec un vrai problème qui se pose derrière sur la reconstruction proprement parlée, c'est quand vous avez un bâtiment qui est, un abri qui était posé, qui est fait de tôle et de bois, lorsque sa pérennité dans le temps, bah, bien évidemment, elle n'est pas bonne, il va y avoir éventuellement des extensions, et le problème, c'est que quand vous voulez construire à l'endroit où il est posé, bah, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il est là. Vous faites comment avec les gens? Vous avez un vrai problème qui se pose aujourd'hui, et qui va être le problème concret de toute la reconstruction pour le problème du logement. Dans tout ce qui est bâtiment public et infrastructure, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que déjà, ça ne se dessine pas en quelques minutes, c'est des temps d'études, c'est d'abord aussi d'avoir des partenaires en face, et notamment au niveau de l'État, qui puissent dire, ok, on est d'accord avec ça et on veut le faire. Donc il y a un processus qui est beaucoup plus lent à mettre en place. Je ne doute pas qu'il y ait des choses en construction permanente et de qualité qui vont se faire. Le seul problème, c'est qu'on a dépenser énormément d'argent sur les infrastructures qui ont été des infrastructures d'urgence, et aujourd'hui, bah, cet argent qui a été dépensé, on ne le retrouve pas sur la construction définitive. Et on a exactement la même problématique qui se pose sur les réseaux d'eau, et notamment les problèmes d'assainissement et d'eau. On a fait pendant des mois et des mois, voire même plutôt des années, du water trucking, c'est-à-dire d'amener tous les matins des camions d'eau pour que les gens aient de l'eau dans les camps. Le seul problème, c'est que pendant ce temps-là, on n'a pas fait l'installation des réseaux, ou très peu, et ça ne fait que débuter. Et ça, c'est un peu dramatique.
Merci Patrick Colombel d'avoir évoqué quelques-unes des incohérences dans la reconstruction d'Haïti. Merci d'avoir été en direct avec nous, cofondateur de l'association Les Architectes de l'Urgence. Ridley, merci de nous avoir appelé de Port-au-Prince. Nous allons au Mali. Encore une question sur Haïti. Bonjour Moussa. ça?
Oui, oui, allô?
Bienvenue, on est ravis de vous entendre, vous nous appelez de Bamako. Vous avez également une question sur Haïti.
Voilà, j'ai une question sur Haïti. J'aimerais savoir comment les Haïtiens eux-mêmes arrivent-ils à surmonter les difficultés auxquelles ils devraient faire face depuis 3 ans. Et mes pensées vont particulièrement à l'éducation. J'aimerais savoir aussi s'il y a plus des initiatives pour que les enfants puissent aller à l'école.
Ouais. C'est vrai que le système éducatif haïtien a été durement frappé par le séisme, l'éducation, la scolarisation des enfants. Alice Milo est avec nous. Bonjour Alice.
Bonjour Juan.
Vous êtes reporter à RFI. Le mois dernier, vous étiez d'ailleurs sur place, sur le terrain, pour réaliser un certain nombre de reportages, notamment sur le système éducatif. La scolarisation des enfants, c'était, on va dire, la priorité numéro un, en tout cas, l'une des priorités du président Martelly. Quel bilan peut-on dresser?
Alors, aujourd'hui, un enfant sur deux en âge scolaire ne fréquente pas l'école en Haïti. Alors pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le système éducatif haïtien est un système ultra privatisé. 92% des écoles du pays sont privées et donc payantes. En fait, depuis l'indépendance en 1848, l'État n'a jamais été en capacité d'assurer une école publique et gratuite, si bien que l'éducation est devenue un vrai marché. Et d'ailleurs, ça saute aux yeux. Hein. Si vous vous promenez dans les rues de Port-au-Prince, vous pouvez voir des dizaines d'écoles primaires, de collèges et de maternelles un peu partout. Pour être clair, on ouvre une école là-bas comme on ouvrirait une épicerie, c'est un vrai business.
Ouais.
Donc, l'école coûte, mais en plus, elle coûte cher par rapport au porte-monnaie des Haïtiens. En moyenne, $300 américains par enfant et par an. Imaginez, alors que 75% de la population vit avec moins de $2 par jour. Alors, les familles sollicitent beaucoup la diaspora pour les aider, mais quand ils sont à court, c'est la catastrophe. Car les directeurs d'école n'hésitent pas à mettre à la porte les élèves qui n'ont pas payé leur mois d'école.
Est-ce que l'État a su apporter une réponse à ces différents problèmes que vous soulevez?
Alors, en tout cas, c'était l'argument de campagne de l'actuel président Michel Martelly. La solution, un programme de gratuité pour les élèves de l'école primaire, programme qui s'appuie sur un système éducatif privé. Concrètement, $90 par élève et par an sont proposés aux directeurs des écoles privées qui s'engagent en échange à ne pas demander un centime aux parents d'élèves. Et aujourd'hui, selon le gouvernement, 1,2 million d'écoliers iraient gratuitement à l'école grâce à ce programme, c'est-à-dire un tiers des élèves, mais franchement, personne ne croit ces chiffres.
Ah oui.
Et tout le monde voilà plutôt une entreprise de démagogie.
Et pourquoi? Pourquoi les Haïtiens sont-ils si sceptiques à ce programme d'école gratuite?
Bah, en fait, sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que toutes les écoles peuvent participer à ce programme sans aucun critère de sélection. Et dites-vous bien qu'il y a de tout dans ces écoles privées. Il y a de très bonnes écoles, mais il y a aussi un gros paquet d'écoles de très mauvaise qualité. Hein. Là-bas, en Haïti, on leur a carrément donné un nom. On les appelle les écoles Borlettes. Borlettes, c'est le nom en fait du loto local. C'est une petite blague pour signifier que dans ces écoles, on fait tout, sauf de l'éducation. Et je peux vous dire, j'en ai visité un certain nombre, et c'est vraiment affligeant. Hein. Professeurs incompétents, classe surchargée, aucun manuel scolaire. Bref, il est courant que les élèves sortent de là sans même savoir lire ni écrire. Donc, une vraie escroquerie. Et c'est tout le drame du pays.
Ah, et que dit le ministère de l'Éducation, justement, face à toutes ces accusations, quelques mots?
Donc, ils reconnaissent qu'il y a un vrai problème, que les écoles qui financent ne sont pas compétentes, et ils assurent qu'ils vont bientôt mettre en place un programme d'accompagnement pour amener les écoles à des standards de qualité, en tout cas, c'est ce qu'ils disent.
Merci beaucoup Alice Milo. On retrouve l'un de vos reportages tout à l'heure dans 7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Emmanuel qui dressera un état des lieux justement du système éducatif. A bientôt Alice. On remercie Moussa qui nous appelait de Bamako. Nous allons aller à Port-au-Prince. Port-au-Prince où vous nous écoutez actuellement sur les 89.3 modulation de fréquence. Wilney, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, bonne fin de nuit à vous. Je sais que vous êtes quelques-uns à nous écouter sur place en pleine nuit. Wilney, vous interrogez beaucoup sur l'efficacité de l'aide internationale.
Oui, Juan, mais avant tout, permettez-moi de saluer en fait la mémoire de mes compatriotes de salut lors de ce matin du séisme. En fait, moi, je suis en train vraiment de questionner l'aide internationale en Haïti. Parce qu'aujourd'hui, en fait, 3 ans après, moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train de vivre le lendemain du 12 janvier. Parce que les personnes sont toujours dans les tentes ou sous des tentes. Certaines facultés en fait, de l'Université d'État d'Haïti fonctionnent toujours sous des hangars. Donc, vraiment, moi-même, je ne vois pas. Et au moment où la communauté internationale se félicite en fait, d'avoir participé à la reconstruction d'Haïti, mais concrètement en Haïti, moi-même, à Port-au-Prince, je ne vois pas vraiment le résultat de cette intervention de la communauté.
Comment vous l'expliquez, Wilney? Est-ce que vous avez l'impression qu'une partie de cette aide est détournée? Est-ce que vous pensez qu'elle est mal dépensée? Quelle est votre analyse à vous?
En fait, je ne vais pas dire que... Bon, je ne suis pas en mesure de dire que l'argent a été détourné, mais moi, je vais plutôt l'analyser de façon... Parce que j'ai comme l'impression que les autorités haïtiennes, pardon, ne sont pas vraiment concernées dans la reconstruction d'Haïti. Ce sont plutôt la communauté internationale qui est en train de s'y prendre avec les expatriés qui sont venus en Haïti, justement pour donner cette aide et puis pour mener les œuvres qu'ils ont besoin de faire justement pour la reconstruction d'Haïti. Or, ce sont non les Haïtiens qui connaissent en fait nos vraies besoins. Donc, déplacer des expatriés venant en fait, de l'étranger, on doit les loger dans des hôtels de luxe, on doit les payer. Donc, la majorité d'argent en fait débloqué pour Haïti, en fait, sont canalisés vers, je dirais, un budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement, on doit payer les expatriés, on doit les loger très bien.
Ouais.
Donc moi-même, je
Donc vous avez vraiment l'impression qu'une grande partie de l'aide permet justement de financer le fonctionnement des ONG. C'est un peu malheureusement un peu souvent comme ça. Wilney, restez en ligne parce que il y a quand même pas mal de réactions concernant évidemment la situation en Haïti. Je voudrais qu'on appelle Oumar. Il nous appelle d'El Fasher, c'est au Darfour. Oumar, bonjour.
Bonjour, Juan.
Le 12 janvier 2010, vous étiez en Haïti de façon professionnelle, c'est bien ça, puisque vous travaillez dans l'aide internationale?
Moi, je travaille pour les Nations Unies, j'étais effectivement à l'époque à Port-au-Prince, comment vous avez eu le tremblement de terre.
Voilà, et vous souhaitez nous raconter un peu comment vous avez vécu avec vos collaborateurs ce 12 janvier 2010?
Oui, c'était assez dur. On était dans les locaux de notre bureau. On était en réunion. Donc, un peu avant 17h, on a entendu une première secousse qui ressemblait à une explosion. Et je me suis dit, mais attendez, on n'est pas quand même à Bagdad ou à Beyrouth. Par la suite, il y a une deuxième secousse qui ressemblait toujours à une explosion. Et puis là, les collègues qui étaient là avant moi ont compris que c'était un tremblement de terre. Et à la troisième secousse, tout le monde s'est rué à la porte de sortie. Et ça a commencé avec au moment où le bâtiment s'est foulé, donc on a eu une collègue qui a été tuée et deux autres qui ont été blessés, quoi.
Ouais, qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous êtes justement sorti de ce bâtiment?
Mais écoutez, c'était le chaos. C'était le chaos, il y avait de la poussière en l'air, les bâtiments tout autour de la mission des Nations Unies qui s'était écroulée. Bon, vous voyez aussi des gens comme des zombies qui marchaient dans tous les sens. C'était vraiment un chaos total. Ouais.
Et vous avez été vous-même traumatisé par ce que vous avez vu, par ce que vous avez vécu?
Ah oui, bien sûr. Ça, on aurait pas traumatisé toute sa vie. Ouais. Effectivement, bon, quand je suis sorti de là, je suis allé voir un psychologue des Nations Unies. Bon, qui m'a pris en charge par la suite, effectivement, je faisais ça en suivi psychologique. Donc, c'est une chose qui vous marque à vie. On doit vivre avec.
Merci Oumar de nous écouter à El Fasher au Darfour. On a reçu le courrier électronique de Damien. Il est français. Il travaille à Port-au-Prince, en Haïti. Bonjour Damien.
Bonjour.
Vous souhaitez témoigner de la situation dans les camps qui accueillent encore des centaines de milliers de sinistrés. Vous travaillez d'une certaine façon dans l'humanitaire, hein, c'est ça?
Oui, mais je travaille avec le cluster, hein, c'est-à-dire que c'est une unité de coordination des activités dans les camps et dans les abris.
D'accord. Alors, qu'avez-vous envie de mettre en avant? Parce que dans le courrier électronique, vous dites que vous avez une bonne connaissance de la situation dans les camps, des enjeux de la reconstruction pour les déplacés. Et qu'aviez-vous envie de nous dire, justement, à l'occasion de cette libre antenne spéciale Haïti?
Eh bien, je voulais un petit peu mettre l'accent sur la situation dans les camps. C'est une situation humanitaire encore d'urgence auquel on va faire face. Pour remettre un peu dans le contexte, juste après le tremblement de terre, il y a environ 1500 camps qui se sont créés et qui ont réuni environ 1,5 million de personnes dans des stades de foot, dans des écoles, dans des places publiques, sur des terrains privés. Aujourd'hui, 3 ans après, il reste environ 350 000 personnes dans ces camps et sur environ 450 camps. Donc ça fait une baisse relativement importante de 80% de cette population, ce qui est un signe, je pense, de l'efficacité de l'action du gouvernement et des acteurs humanitaires. Donc ça c'est le point positif. Après je pense qu'il reste des besoins humanitaires critiques, notamment auprès de ces 350 000 personnes qui sont dans les camps depuis 3 ans.
Oui.
La population qui reste dans ces sites est la plus vulnérable. Elle est entrée finalement avec les séismes dans un cycle de pauvreté duquel elle va avoir du mal à sortir toute seule. Pour la plupart, ce sont des familles qui sont d'anciens locataires, dont les maisons ont été endommagées ou détruites, donc elles ne peuvent pas forcément revenir ou sortir du camp pour aller dans une habitation. C'est une population qui est vulnérable économiquement, elle est au chômage. C'est une population qui est principalement formée de familles monoparentales, donc il va y avoir des difficultés économiques.
Damien, vous qui êtes sur le terrain, quelle serait la solution la plus simple, la plus efficace justement?
La solution qui est mise en place actuellement et qui est sans doute la plus efficace, c'est celle des programmes de retour. Donc les programmes de retour sont finalement des activités mises en place par le gouvernement et les acteurs humanitaires et qui visent à finalement distribuer ce qu'on appelle des subventions au loyer à la population des camps.
Mmh.
Il s'agit en fait de supports financiers pour aider les familles des camps à finalement louer une habitation en dehors du camp pour environ une année.
D'accord, donc subventionner les loyers.
Oui. C'est ce qui est le plus efficace, je pense, et ça devrait être une priorité pour l'année prochaine.
Bon, on suivra ça de près. En tout cas, merci d'écouter RFI, Damien. Merci de nous avoir contactés. RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM. Un coup de gueule, celui de Gemma. Il est à Paris. Bonjour, Gemma.
Oui, bonjour, Juan.
Vous travaillez dans le transport maritime. Vous faites de nombreux allers-retours entre la France et Haïti. C'est ce que vous avez dit au standard il y a quelques instants. Pourquoi un coup de gueule?
Écoutez, moi, je m'aperçois que depuis 3 ans, rien n'a changé. Au contraire, il y a de plus en plus de débris, il y a de plus en plus de pollution. Je me demande que font les ONG. Mais ce qui m'alarme aussi, c'est le comportement aussi du gouvernement. Il y a de plus en plus de corruption. Le gouvernement ne cède pas au prix surtout des opérateurs économiques. Pour moi, ce sont les citoyens haïtiens qui essayent d'aider leur famille à travers... je parle de citoyens en France. Hein,
mm-hmm. La diaspora.
La diaspora, voilà. Mm-hmm. Se mettent à des fois 5, 6, 7, 8 familles à envoyer des affaires, des denrées alimentaires, des matériaux de construction et tout. Arrivés là-bas, ils se font taxer lourdement par l'État avec vraiment un comportement... Moi, je dirais c'est pire que la corruption. Pour moi, c'est un crime. Pourquoi? Parce que taxer des affaires que des fois on va chercher même dans les poubelles, les taxer à des milliers de dollars, coincer des gens, des conteneurs, des gens sur les ports en ce moment, c'est honteux.
Gemma, je suis obligé de vous interrompre. On est obligé de rendre l'antenne. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez appelés pour nous parler d'Haïti aujourd'hui. N'oubliez pas toutes nos émissions spéciales tout au long de la journée. Et demain, deux rendez-vous, notamment à 13h10, heure de Paris, 18h10, également heure de Paris, géopolitique également consacrée à la situation en Haïti. Merci à toute l'équipe qui m'a permis et aidé à vous présenter cette émission. Lundi, nous serons de retour et nous parlerons de la situation au Mali où les djihadistes qui contrôlent le Nord poursuivent leur avancée. Le président malien demande l'aide de la France. L'ONU demande le déploiement rapide d'une force internationale. On en parle tous ensemble lundi. Bon week-end.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent et paiement de facture.
Les tubes du Zouk 2012, la plus grosse compile de l'année. Un maximum de tubes et des inédits de folie sur deux CD et un DVD. Jimmy Desbarrio. Lynn Céline. Céline Rétori. Dorian. Et bien d'autres. Les tubes du Zouk 2012, la compilation 100% locale, déjà dans les bacs.
Vous écoutez Popouri CUT 89.5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Nous sommes au campus universitaire, la maison Hart House, et nous remercions beaucoup ceux et celles qui nous ont appelés tout au long de cette émission. Un grand merci à Franck-André Trouillot, qui est à Montréal, qui était dans notre émission dans la première heure. Nous allons avoir aussi observations des auditeurs de la région de Toronto dans un instant avec Monsieur Fougère Adolphe qui nous attend. Et nous allons aussi recevoir notre ami de Tico Libri à Toronto pour ce rendez-vous qu'elle nous propose au Winterlicious Fridays avec DJ TS et DJ Nick. Ce sont deux DJ caribéens, madame, monsieur, africains de la région de Toronto qui font de la belle musique. Ils étaient ici pour célébrer Noël avec nous en direct à la radio. C'était super. Alors, Haïti Culture, il faut en parler. Depuis le séisme en 2010, plusieurs artistes haïtiens continuent à sensibiliser le monde à travers leurs œuvres, mais aussi leur art. La chanteuse et conteuse haïtienne, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Mimi Barthélémy, et elle vient de sortir un album intitulé « 10 mois des chansons d'Haïti », 16 chansons qui racontent avec poésie l'histoire d'un pays. Un beau livre, un livre magnifique, paru aux éditions Kanjil, et reportage Muriel Malouf de RFI Paris, en compagnie de Mimi Barthélémy.
Nous pas besoin crier, nous pouvons chanter, nous viendrons du roman.
C'est un ouvrage magnifiquement illustré, d'ailleurs ce ne sont pas vraiment des illustrations qui agrémentent les chansons, mais de véritables œuvres naïves propres à l'art africain. Des peintures du merveilleux, un genre dans lequel les peintres haïtiens sont célèbres de par le monde, comme André Blaise, Kitzner Chéri ou Jean-Louis Senatus. Émilie Barthélémy a puisé dans son enfance pour réaliser ce livre-disque.
Vous savez, on a une tradition musicale extrêmement riche et ces chansons font partie de ce que j'appelle mon patrimoine maternel musical.
Nous pas besoin de crier, nous pouvons chanter, nous bien jolis romans.
Et dans le livre, chaque chanson comporte son explication historique en trois langues, français, créole et anglais. Mimi Barthélémy.
L'intérêt de ce livre, c'est que ces chansons enfantines parlent du quotidien, parlent de nos voisins de la République dominicaine, parlent de l'histoire d'Haïti, de la découverte de l'Amérique, de Christophe Colomb, parlent du bois caïman, au moment où il y a les esclaves et les libres décident de lutter contre la France, c'est au bois caïman, et ça pénètre dans l'histoire, dans le passé. Ces histoires ne sont pas anodines, elles parlent de viol, elles parlent de violence, mais l'intérêt de ces chansons, c'est que à travers la naïveté de l'enfant et son sens du merveilleux, tout ça permet d'aborder les choses dures de notre histoire.
Des chansons qui dépassent aussi la géographie haïtienne, qui puisent leurs sources en France, dans toute la Caraïbe, mais aussi en Afrique, un continent auquel Haïti est bien sûr lié à travers l'histoire de l'esclavage. Et à Bumba, une des chansons de l'album évoque justement un rituel vaudou.
From the rooftop, CIUT 89.5 FM, presenting
representing the history and evolution of sound for 25 years and counting. CIUC 89.5 FM, Toronto.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Émission spéciale, Haïti 3 ans après. Sur Haïti. Un séisme de magnitude 7 dévastait Port-au-Prince et ses environs, détruisant en un instant les bâtiments officiels, les hôpitaux, les bidonvilles accrochés aux ravines et les immeubles en mauvais béton. Bilan de ces quelques secondes interminables, plus de 250 morts, 300 000 blessés, 1,3 million de sans-abri réfugiés dans des camps d'urgence. Beaucoup de choses ont progressé, certes, en 3 ans. 77% des gens ont été sortis des camps. Dans un pays qui compte autant de problèmes structurels, ce n'est pas si mal. Pour compenser les 250 000 logements détruits par le séisme, 6 500 maisons endommagées ont été réparées. 4 500 nouvelles habitations ont été bâties et plus de 100 000 abris provisoires en dur ont été fournis. Haïti, 3 ans après, Haïti peut-il offrir plus rapidement des solutions de relogement à sa population? Dans un instant, un invité de la région de Toronto. Il s'appelle Fougère Adolphe, il est coordinateur de la Maison d'Haïti du Grand Toronto, mais aussi membre et de la communauté haïtienne unie de l'Ontario et trésorier à SKV, il fait beaucoup de choses. Bonjour, cher ami.
Bonjour, Eric. Je profite de l'occasion de saluer la mémoire des 300 000 compatriotes tombés lors du séisme de janvier 2010. Mmh.
Alors, aujourd'hui, c'est un moment difficile, je pense, pour beaucoup d'Haïtiens et les amis d'Haïtiens qui, comme si ça se passait encore une fois chaque année, cela nous rappelle ceux qui sont partis et c'est un peu pour renouveler un peu leur mémoire. On ne veut pas les oublier, on ne peut pas les oublier. Mais aussi, il faut parler des survivants de cette catastrophe, de ce séisme.
Ah oui, il faut parler des survivants parce que Haïti doit vivre. Si Haïti doit vivre, nous qui sommes encore vivants, nous devons travailler main dans la main pour permettre que Haïti soit remonté de ce pas qu'il est maintenant.
Alors, avant de passer à des questions quand même plus pointues, comment s'est déroulée la situation hier pour marquer ce 12 janvier 2013, trois ans après, dans la région de Toronto? Est-ce qu'il s'est déroulé des activités, des cérémonies dans la région de Toronto?
Oui, effectivement, hier, au niveau de la maison d'Haïti, nous avons organisé une soirée où nous avons commémoré la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés pendant les séismes. Mais aussi, nous avons réfléchi pour voir que nous, qui sommes à l'extérieur d'Haïti, en tant que fils d'Haïti, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir le pays de la situation dont il se trouve maintenant. Et je peux vous rassurer, c'était une rencontre, vraiment, il y avait des émotions fortes, mais c'était une occasion pour que les Haïtiens qui sont à l'extérieur puissent prendre conscience de la situation de leur pays et de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir ce pays de la situation difficile dont il se trouve actuellement.
Ouais. Alors, il y a aussi tout l'aspect de l'aide que les pays étrangers, y compris le Canada, doivent apporter pour remonter la pente dans ce pays. Et est-ce que c'est dans l'esprit de tout le monde, surtout avec les décisions du gouvernement canadien, de stopper peut-être et d'attendre, de voir la situation un peu plus claire avant de continuer à investir en Haïti?
Moi, je pense que pour moi et notre équipe qui était en train de réfléchir hier sur la situation haïtienne, on se dit souvent, et moi personnellement je le dis souvent, l'aide au développement, l'assistance à un pays ne pourrait pas développer ce pays. Et je pense, on doit être reconnaissant que nos amis de la communauté internationale ont apporté un peu d'aide en Haïti. On ne peut pas l'ignorer. Mais on doit savoir que nous, les Haïtiens, nous devons être les premiers à prendre nos responsabilités pour sortir le pays de la situation qu'elle est. On ne devait pas attendre l'aide internationale pour commencer. Nous devons agir nous-mêmes. Si on pourrait cotiser $1, $2, nous, les Haïtiens qui sont à l'extérieur, nous, les Haïtiens qui sont à l'intérieur du pays, et commencer à investir dans les activités, je pense que ce serait mieux pour nous que d'attendre l'aide internationale.
J'aimerais qu'on continue ce débat tout au long de l'année parce que il y a beaucoup de gens qui veulent contribuer, ils sont très sincères, mais beaucoup aussi se posent des questions, comment l'argent est géré. Il y a eu beaucoup de débats cette semaine avec l'implication des ONG, il y a eu beaucoup de débats sur des services parallèles, des organismes parallèles qui ne se parlent pas, et ça c'est Madame Michaëlle Jean qui l'a dit cette semaine. Alors, il y a toute une nouvelle structure peut-être à repenser pour voir comment aider Haïti afin que l'argent aille vraiment chez les plus démunis, les gens qui sont dans le besoin dans ce pays, n'est-ce pas?
Oui, et je pense que l'aide internationale, on devait redéfinir l'aide internationale. Mmh. Heureusement, le gouvernement Martelly Lamotte a pris des dispositions pour repenser l'aide internationale. Parce que généralement, on dit qu'on donne de l'aide à Haïti. Effectivement, on donne de gros montants en Haïti, mais ces montants retournent au pays qui les a attribués. Par exemple, si on regarde, par exemple, on a dit qu'on a versé de l'argent au pays pour au moment de la reconstruction ou bien l'aide humanitaire. Mmh. Si on regarde les chiffres qu'on a eus, par exemple, les chiffres du Congrès américain, et lorsqu'on regarde les chiffres qu'on a, on a vu que 34% ont été livrés aux militaires américains qui sont partis pour apporter de l'aide, 28% à des agences de Nations Unies, 26% à la société civile, 5% à la Croix-Rouge, et l'État haïtien, qui devait être le moteur de développement du pays, a reçu 1%. Ce qui veut dire que chaque dollar dépensé en Haïti, l'État haïtien reçoit 5 centimes. Comment voulez-vous un État qui voulait sortir de la situation qu'elle est, l'international qui se dit être nos amis, voulait nous aider, est-ce qu'il veut nous aider réellement? En accordant 5 centimes sur chaque dollar dépensé à Haïti, c'est ce qui veut dire l'argent qu'ils donnent retourne dans leur pays et d'autres pays amis, ce sont eux qui ont les contrats, ce sont eux qui ont tout.
Alors,
que l'État haïtien devait redéfinir la politique des ONG à l'intérieur du pays, l'État haïtien devait prendre en main venir avec un plan de développement peut-être axé sur 25 ans. Moi, j'ai déjà fait la proposition au gouvernement et au président de la République. S'asseoir avec les différents acteurs à l'intérieur du pays, inviter nos amis de la communauté nationale à venir et définir un plan de développement pour le pays avec les besoins réels d'Haïti. Et il revient aussi à l'État de dire, voilà les domaines, nous avons besoin de l'aide internationale. C'est pas ONG de décider. Oui. Ils ont de l'argent, c'est que ce sont eux qui décident où ils vont investir.
Mesdames, messieurs, je vous rappelle que...
C'est un domaine qui n'a rien à voir avec les besoins de la population.
Et oui, Fougère Adolphe qui est notre invité, madame, monsieur, pour conclure, un mot sur tout ce que vous avez entendu depuis le début de cette émission. On vous laisse conclure comme invité à Toronto. En un mot seulement, parce que nous avons de la difficulté pour rejoindre d'autres invités qui nous attendent.
Et nous vous disons merci, Eric, nous saluons les différents auditeurs auditrices. Nous avons vu l'intérêt que vous avez accordé, les auditeurs ont accordé à la situation haïtienne. Je vais vous dire, rassurez-vous que nous de la communauté haïtienne qui est à Toronto, un peu partout à travers le monde, nous allons assumer notre responsabilité de compter avec l'État haïtien pour sortir Haïti de la situation qu'elle est. Nous n'attendons pas l'aide internationale pour développer le pays, c'est à nous, aux Haïtiens, d'assumer nos responsabilités et d'amener le pays là où nous voulons qu'il aille.
Merci beaucoup pour ce message d'espoir, madame, monsieur. C'est tout le plaisir qu'on a eu pour... Et je remercie tous ceux et celles qui ont répondu présents pour monter cette émission avec nous. Comme vous le savez, c'est toujours casse-tête dans le sens avec les décalages horaires. On ne sait pas si on va avoir des personnes... Surtout, on voulait avoir des gens qui sont sur l'État, qui travaillent sur le terrain en Haïti, des observateurs, des étrangers, des Haïtiens, des gens de Montréal, des gens de Toronto très impliqués dans la cause. Et je vous remercie de la part de toute l'équipe Fougère Adolphe et on se reparle très prochainement. Hein? Merci.
Merci, bon travail et la communauté est avec vous.
Au revoir.
Au revoir.
Émission spéciale. Haïti, 3 ans après. CUC 89,5 FM, t'en souviens. Pour CUC 89,5 FM, une émission spéciale dans le cadre de Haïti, 3 ans après. Ce qui fait le buzz en ce moment sur la toile, Tiken Dia Fakoli, un single pour le Mali, le reggae ivoirien, veut soutenir le Mali dans l'épreuve. Pour cela, il vient de sortir un nouveau single intitulé Anka Willy, mobilisation en Bambara, distribué gratuitement sur le territoire malien. Cet artiste engagé, je vous rappelle qu'il est déjà passé à Toronto à quelques reprises, s'était réfugié au Mali après le début de la crise post-électorale ivoirienne. Monsieur Lazare, le film Monsieur Lazare est projeté à l'auditorium de la Bibliothèque centrale de North York à Toronto, demain lundi 14 janvier à 18h, présenté dans le cadre d'un cadre de
d'un programme en anglais. La projection est suivie d'une discussion menée en anglais. Film aux multiples distinctions. Monsieur Lazare a notamment remporté le prix de meilleur film canadien au Festival de films internationaux de Toronto en 2011. À Toronto, je vous rappelle, il a remporté 7 Jutras. 14e cérémonie des Jutras en 2012, dont celui du meilleur film et meilleur scénario. Du 20 novembre jusqu'au 20 janvier, donc vous avez encore du temps, le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario fait revivre le style napoléonien avec coups de crayon sous Napoléon, ça a l'air intéressant, les forces de la nature, dessins, peintures, estampes, coups crayon, des œuvres à l'aube du tout nouveau 19e siècle sont exposées, témoignent du remarquable style tout en mouvement parallèle avec les bouleversements sociopolitiques de cette époque. Musée des Beaux-Arts, rendez-vous donc si vous voulez aller à ce style napoléonien avec coups de crayon sous Napoléon, les forces de la nature. Je vous rappelle que le musée des Beaux-Arts est situé à 317 rue Dundas West à Toronto. Et puis pendant l'hiver, le marché des fruits est au rendez-vous toujours sur la Danfont, ça c'est le quartier grec que j'aime bien. Et oui, ça ne s'arrête pas, mais se couvre pour continuer à vous fournir les meilleurs fruits et légumes. C'est bon pour la santé. Les fermiers se retrouvent à l'église baptiste de Danfont et se tiennent tous les mardis après-midi. Oui, il faut y aller, il y a des gens très intéressants là qu'on peut rencontrer. Alors, si vous voulez aller voir les belles récoltes de nos fermiers, allez-y, le marché des fruits, légumes, propose un stand de fruits et de légumes organiques, oui, issus des terres ontariennes, donc c'est très local, mais aussi un stand de soupe chaude, du pain et des pâtisseries, et tout ça avec des fromages de la région et bien d'autres encore. Ah là 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 là. Alors, avant l'arrivée du grand froid, armez-vous avec le plein de vitamines. Dans un instant, vous allez gagner des places au prochain concert de nos partenaires le 25 janvier, Winterlicious Friday, avec DJ T-Ace et DJ Nick, le 25 janvier. Qui dit mieux, jouez, gagnez avec nous. Envoyez votre message immédiatement, tot.courrier@sympathico.ca. Winterlicious Fridays avec DJ T.S. et DJ Nick au programme hip-hop, raga, dance, soca, zouk. Voilà, on vous a donné un aperçu. Le compas, bien sûr, le compas. Mettez du chaud dans votre hiver à Toronto le 25 janvier 2013. À ne pas rater. Colibri vous donne rendez-vous avec tous nos partenaires, bien sûr, de cette soirée spéciale le 25 janvier. Cela se déroulera au Waterfalls Indian Papa. Et oui, où ça se situe? Dans un instant. Et oui, je vois qu'a dansé déjà Christelle de Petit Colibri. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Ça va?
Ben super bien,
vous
bonne
année. Vous êtes plage de Petit Colibri là, vous êtes ben, bonne année à vous aussi. Comment ça s'est passé?
Ben très très bien, on s'est reposé, donc tout va bien, on est reparti pour une nouvelle année.
Alors vous avez deux secondes pour nous présenter, nous mettre l'eau à la bouche pour cette belle soirée de Winterlicious Fridays. C'est la première soirée, je pense, de Petit Colibri, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, ben, après le chanter Noël, on continue, et donc voilà, Winterlicious, c'est vendredi 25 janvier à Waterfalls, donc c'est à Kensington Market. c'est 303 Augusta Avenue, donc c'est Augusta et Collège. Voilà, ce sont les mêmes idées du dossier et du génie. Ils vont nous faire toute la nuit, c'est gratuit pour tout le monde avant 11h et ensuite gratuit pour tous les filles toute la nuit. Et ce sera $5 pour les étudiants et les PVTistes. Voilà, on aura des surprises, un show de peinture par Jimmy Chalet et puis pas mal d'autres surprises. Donc voilà, on attend tout le monde. Et la musique, bah, ça sera du raga, d'un sol local, soca, très décalé. Le meilleur du meilleur, voilà.
Le Afro Vibes, bien sûr, sera aussi.
Exactement.
Et des surprises, madame, monsieur, à ne pas rater. Mettez du feu dans la maison, du feu dans votre vie, pourquoi pas. L'hiver est chaud à Toronto grâce à Tico Le Gris, pas pour une chose, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, encore une fois, c'est 303 Augusta Avenue et pas loin de collège, c'est Waterfalls Indian Tapas, que je connais bien. Alors, c'est un peu la formule pour voir un peu si ça fonctionne. Vous allez répéter la formule régulièrement, oui?
Oui, on espère faire une soirée une fois par mois et puis ben l'été ça sera d'un summer issue et voilà on espère avoir le public qui nous suivra. On commence cet hiver pour réchauffer les cœurs et puis on continuera cet été évidemment.
Oui. Alors ce qui s'est passé pour les gens qui n'étaient pas au rendez-vous de Chante Noël, il y avait quand même beaucoup d'immigrants, mais aussi des gens d'ici. Il y avait des Français, des gens des Caraïbes, des anglophones, des allophones. Il y avait un peu de tout le monde là, et tout le monde chantait en français. Je trouvais ça formidable.
Oui. Donc,
c'était une soirée un peu spéciale pour vous, hein?
Oui, c'était, on voulait voir le retour, voilà, présenter un peu la culture caribéenne. Et c'est vrai qu'on a eu de bons retours, les gens étaient présents. C'était un mélange de culture extraordinaire. Et voilà, très bonne ambiance, les gens ont dansé toute la nuit, donc on était très contents, et je pense qu'on a eu un bon retour aussi, donc c'est pour ça qu'on continue avec Winter Issues Friday.
Alors, rappelez-vous encore une fois, que fait le petit colibri à Toronto pour les gens qui nous écoutent sur le net, qui me disent, hé, hey, tu racontes des histoires là, il n'y a pas de petit colibri à Toronto, on ne peut pas manger de créoles là, après ça fait pas, voilà. Mais oui, les gens ne me croient pas, alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces sceptiques?
Ben, on est là, on a ouvert l'été dernier et voilà, on fait la nourriture ben, guadeloupéenne, martiniquaise, voilà, un mélange de culture et on est bien présent, voilà, on fait découvrir la musique, la nourriture, la culture et on essaye voilà, d'apporter un maximum de choses positives à Toronto, mais on est bien là, on existe.
C'est dans le quartier Kensington Market, madame, monsieur. Et d'ailleurs, vous pouvez cadencer tout en mangeant, dégustant un petit plat des Antilles, n'est-ce pas, avec DJ.
Qui
est ce DJ?
Voilà.
Ils sont formidables, hein. Comment faire la cuisine avec... Moi, je trouve ça formidable, moi, de faire la cuisine avec une bonne musique, un bon DJ qui vous donne le son. Et passe-moi le son et la sauce, alors.
Voilà, c'est important.
Ouais, très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, les gens peuvent gagner des places. Vous pouvez nous accompagner aussi. Je vous rappelle encore une fois, c'est le 25 janvier 2013. C'est la rentrée pour nous avec Tico Libri, madame, monsieur, et Christian qui est au rendez-vous. Mettez du chaud dans votre hiver, dans votre vie. Winterlicious Fridays avec DJ TA, c'est DJ Nick. Ça va chauffer le 25 janvier prochain à 303 Augusta Avenue, pas loin de collège. Et c'est Waterfalls Indian Tapas. C'est un restaurant à ne pas rater, madame, monsieur. Merci mille fois et bonne chance.
Merci
et bonne année, hein.
Oui.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Voilà, madame, monsieur, nous terminons ce programme spécial aujourd'hui, 3 ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, qui a fait environ 300 000 morts en Haïti. Dans quelle situation se trouve le pays? Je sais que nous avons essayé, à notre façon, sans étant des experts, de répondre à vos attentes, à vos questions. DJ Devera, merci d'avoir été là. Morgane, une fois, grand merci. Toujours Adolphe, France-André Trouillot à Montréal, RFI Magazine, Christelle, l'Express de Toronto, Mimi Barthélémy, Amélie Baron, ici Ricadère, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission.
Yesterday was last night. Is that a Thursday from the tragedy?
sounds like you've met all alone. Oh, oh, oh. Everybody, you've got the whole world in your hand. You won't be a fool. Thank you.